avec Gabriella Bezerra des Mélodaï. Alors Gabriella, vous revenez tout juste du Japon.
Oui. Moi, je suis anthropologue. J'ai fait une ethnographie de singes parlants dans un laboratoire de sciences cognitives. J'essaie de comprendre les relations homme-animal dans la science. Par exemple, les singes, les chimpanzés dans ces laboratoires-là, ils disent beaucoup de choses. Mais moi, quand je suis arrivée, je n'étais pas d'études entraînée dans cette partie de l'éthologie. Je ne comprenais pas beaucoup de ce qu'ils disaient. Mais maintenant, ça va mieux. Quand ils font des vocalisations ou des gestes, je peux comprendre leur signification. Et je peux comprendre mieux les enjeux sociaux dans cette relation homme-animal.
Alors, comment est-ce qu'on comprend les singes? Comment est-ce qu'on apprend leur langage?
Je vous donne un exemple. Quand ils n'aiment pas une chose, ils font une vocalisation qui s'appelle « cough bark ». C'est comme... Et ça veut dire « je n'aime pas ça ». Alors, par exemple, quand les gens donnent des nourritures aux singes, quand ils font... Il veut changer de nourriture, il faut essayer de donner une autre chose au singe parce que oui, cela ne va pas. Mais par contre, par exemple, quand on rencontre des singes, ils font comme... Cela veut dire « je suis heureuse que tu es là ». Ils sont ces types de choses qu'on essaie de comprendre pour faire une approche un peu plus symétrique. Pour moi, c'est important de ne pas m'arrêter sur les représentations que les hommes font des animaux, mais d'essayer de vraiment comprendre les points de vue animaux. Par exemple, ça m'intéresse pas seulement comment ils établissent des relations avec les singes, mais aussi comment les singes peuvent établir des relations sociales avec les humains.
Pourquoi est-ce que ces singes sont dans ce laboratoire? Quel est l'objectif de ce laboratoire?
L'objectif, c'est d'étudier leur monde perceptuel. Et pour ça, ils ont appris aux singes de langage symbolique, comme par exemple des kanji, qui sont des idéogrammes japonaises. Mais leur vrai intérêt, c'est de comprendre leur monde perceptuel, c'est ça.
Et vous, finalement, vous vous intéressez autant aux singes qu'aux hommes, c'est vraiment l'interaction entre les deux.
Oui, exactement. Et moi, ma position dans ces laboratoires-là, c'est un peu intéressant parce que je suis à la fois primatologue et à la fois anthropologue parce que j'ai reçu une invitation pour conduire des expériences avec les singes. Alors moi, je fais tous les trainings pour devenir vraiment primatologue. Je fais une licence pour faire des expérimentations et tout ça. Et c'est pour ça que moi, là-bas, je suis à la fois un peu primatologue et un peu anthropologue.
Comment, Gabriella, vous en êtes arrivée à vous intéresser aux singes?
Moi, je suis partie de la... culture, de la notion de culture, parce qu'en anthropologie et en primatologie culturelle, la notion de la culture marche sous deux paradigmes différents. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aux singes, parce que je pense que l'éthologie peut beaucoup apporter à l'anthropologie, et l'anthropologie peut beaucoup apporter à l'éthologie. C'est pour ça que je me suis intéressée aux singes, parce que, oui, je pense qu'on peut repenser la notion de culture et nature à travers les singes, à travers les travails avec les cultures animales, si on peut dire.
Donc, selon vous, il existe une culture animale comme il existe une culture humaine?
Oui, 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 exactement. Et si on parle, par exemple, de transmission sociale, on voit des cultures dans beaucoup d'autres espèces. Mais la question, c'est que l'anthropologie a un concept très anthropomorphique très anthropocentrique de la notion de culture. Et si on gonfle la définition de culture, seulement les humains sont capables d'avoir la culture. Mais si on voit dans le sens le plus basique des éléments qui puissent former la culture, on peut voir que les animaux sont aussi capables d'avoir des transmissions sociales, sont aussi capables d'avoir des processus de signification, même s'il n'est pas exactement ce qu'on pense d'une culture humaine. Il y a aussi des éléments là que l'anthropologie ne peut plus ignorer, je pense.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de culture chez les singes que vous avez pu observer, par exemple ?
Dans la vie sauvage, par exemple, ils sont capables d'utiliser des instruments de façon très complexe, par exemple, des pierres pour casser des noix. Et c'est là, et pour ces processus-là, il y a aussi transmission sociale. Et c'est là, je pense, c'est l'exemple le plus remarquable des cultures. Des autres choses sont intéressantes, par exemple, l'utilisation des chaussures faites à des feuilles pour... Beaucoup de choses que se rassemblent aux humains.
Et très vite, à travers vos études, vous avez commencé à étudier dans différentes parties du monde. Pourquoi ?
En fait, je faisais ma licence à l'Université du Rio de Janeiro. Et pendant cette période-là, ma mère, elle est décédée. Et moi, j'ai vu que j'avais déjà exploré toutes les possibilités académiques que je pouvais au Brésil. Je sentais aussi que je voulais élargir mon monde dans le sens humain. Parce que quand cet événement s'est passé, je me suis demandé pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui signifie la vie pour moi? Et après... La réponse était « Bon, je veux découvrir le monde par la connaissance. » C'est mon amour à la connaissance qui me fait être ici dans ce monde-là. Et après ça, j'ai décidé de partir à l'étranger pour explorer des autres champs, pour explorer l'interdisciplinarité et aussi connaître des autres cultures, des autres humains et peut-être animaux.
Donc vous êtes partie où ?
D'abord, j'ai fait un échange au Danemark. Après, j'ai commencé un master binational entre France et Allemagne. J'étudiais à l'université de Bielefeld et à École normale supérieure. J'ai fait un master en Science Studies. Et après, j'ai fait un petit parcours en Italie pour un stage de recherche et aussi aux États-Unis. Mais j'ai décidé de rester en France. J'aurais plus de soutien dans le sens d'une direction de recherche ici en France.
Et à chaque fois que vous avez été dans un pays, vous avez appris la langue.
C'était un peu comme ça, mais je pense que l'allemand, j'avais appris avant de partir en Allemagne, un peu d'italien, mais la question, c'était que simplement, quand j'étais là, j'avais des amis, j'ai pu développer un peu des compétences linguistiques. Oui, c'était un peu comme ça.
Et vous parliez déjà anglais ?
Oui, exactement. Ma grand-père, il est américain. C'est peut-être la langue plus simple pour moi de m'exprimer, mais aussi la terminologie, c'est tout en anglais. Et mon terrain, c'est au Japon. Au Japon, je parle à la fois le japonais, à la fois l'anglais. Pour moi, traduire ça dans une troisième langue serait plus difficile. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire la thèse en anglais.
Est-ce que, à travers ces différents pays dans lesquels vous avez habité, est-ce que vous avez pu observer des différences notables dans la manière dont étaient perçus les animaux ?
je peux pas dire avec précision, mais ce que je vois dans mon terrain, c'est que au Japon, c'est que dans les sens pratique des interactions quotidiennes. Peut-être il y a une relation plus proche des Japonais aux animaux, de traiter les animaux plutôt comme des sujets que comme des objets. Mais il y a aussi une question très problématique à penser, que, par exemple c'est la question de la politique japonaise sur les baleines. C'est un peu un paradoxe que j'essaie à comprendre.
J'imagine, Gabriella, que pour vous, la question de l'interculturalité est quelque chose que vous vivez de manière quotidienne. Est-ce que vous en tirez des formes de philosophie de vie ou une expérience particulière ?
Oui, chaque fois quand je suis dans un pays, il faut reformuler toute ma tête, mon esprit, ma façon de penser, parce que pas exactement que je sois un autre personne complètement différente, mais il faut s'adapter un peu à des traditions locales. Il y a beaucoup de différences. Il y a aussi des différences subtiles. Par exemple, en France, si on demande les gens sans dire bonjour, c'est vraiment un problème. Les gens peuvent être très rudes avec nous, même si on dit excusez-moi. Cela n'est pas du tout comme ça au Brésil, au Japon. Alors, chaque pays, il y a sa façon différente de vivre, de communication. Ça peut être subtil comme ça, comme un bonjour quand on commence une phrase, par exemple. Il y a toujours des petites choses.
Au Japon, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?
C'est leur relation avec le travail. Parce que, je peux me tromper, mais je pense qu'au Japon, il n'y a pas exactement une division très claire entre « c'est là, c'est mon moment de repos, c'est là, c'est mon moment de travail ». Et pour moi, ma perception, comme il n'y a pas une très claire division entre repos et travail, les gens travaillent tout le temps. Ici, là, ça peut devenir un peu problématique, je pense. Il y a une chose très intéressante au Japon, c'est qu'il faut s'excuser même quand ce n'est pas notre faute. Il faut toujours, se culpabiliser, même quand les choses ne sont pas vraiment notre faute. Mais cela, je ne trouve pas exactement difficile. Je trouve que cela, ça peut aider des relations sociales. Je pense que ça marche très bien, je pense, dans la société japonaise.
Et en France ?
Je pense que c'est un phénomène peut-être plutôt parisien. Les gens sont un peu de mauvaise humeur, je pense. Mais si je peux dire, dans tous ces pays-là où j'ai habité, si je pourrais choisir un pays pour rester, je penserais la France, en fait. Et Paris. Même si je pense que peut-être parfois, les gens sont un peu de mauvaise humeur. Mais oui, l'ambiance culturelle, l'environnement culturel, comme on dit. Il y a aussi le niveau des politisations de la société française. Je pense qu'en comparaison avec les autres pays, c'est un niveau très haut. Ce sont des choses importantes pour moi. Paris serait ma cité si je pourrais choisir une cité pour rester, pour vivre. Je serais Paris.
Est-ce que vous auriez envie de retourner vivre au Brésil ?
Comme je suis boursière du gouvernement brésilien, je suis obligée de retourner. C'est un sentiment un peu mitigé. Parce que d'un côté, je voudrais retourner, rester avec ma famille, parce qu'il fait déjà plus de 10 ans que je suis à l'étranger. Et je voudrais aussi créer un centre d'études sociales sur la production de connaissances scientifiques. Mais dans un autre côté, je ne sais pas si j'ai toutes les possibilités académiques que je voulais pour moi. D'un point de vue professionnel, ça serait un peu limité. il faudrait créer quelque chose de nouveau, au moins pour moi, pouvoir vraiment travailler des questions que je veux travailler au niveau éthologique, anthropologique au Brésil. Il y a aussi cette relation avec la connaissance. Je me suis inspirée complètement par ma mère. Elle m'a influencée complètement. Elle était secrétaire au centre de recherche en physique, au centre brésilien de recherche physique. Mais même si elle était seulement secrétaire, si on fait la comparaison avec le milieu académique, elle m'a donné tous les outils pour penser le monde et elle a voulu penser le monde avec moi. Et oui, peut-être. Ouais.
Le monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture Plus.